à penser de Foucault. Ce point revient à demander, mais qu'est-ce que c'est au juste qu'il appelle un énoncé? Alors, à charge pour moi, à la fin de ce passage, à charge pour moi d'essayer de donner une réponse où là, il faudra que vous me coinciez si cette réponse n'est pas claire et concrète. Car la question est bien, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé? En tant que l'énoncé ne se confond ni avec des mots, ni avec une phrase, ni avec une proposition. Donc sur ce point, il faudra que vous soyez très sévère. Si je ne donne pas de réponse, ben, il faudra me dire que ça ne va pas tout ça. Moyennant quoi, je me donne le droit d'aller très lentement, c'est-à-dire de faire les détours qui me semblent nécessaires, parce qu'encore une fois, c'est une question très compliquée. Et l'archéologie du savoir est sûrement un livre difficile. Alors, je me donne le droit de certains détours, notamment pour répondre à une question que l'un d'entre vous me pose. Et cette question, je la lis pour que vous la reteniez, et en effet, je crois qu'elle peut se poser. La question est la suivante. On peut penser les choses sans qu'il y ait une visibilité. Il n'y a pas d'implication entre les deux, dit celui qui pose la question. En revanche, on ne peut pas penser des mots sans qu'existent des énoncés. Tout ça, ça ne paraît pas sûr, hein, c'est de... Même si leur source première est un « on ne peut dire des mots qui ne soient des énoncés. Si bien que la cause des énoncés serait les énoncés eux-mêmes. Vous voyez, je retiens au moins de la question. On peut parler de choses indépendamment de visibilité. On ne peut pas parler de mots indépendamment d'énoncés. À mon avis, non. Ça irait pas si c'était ça. Mais c'est compliqué d'essayer de se débrouiller là-dedans. Donc, notre question fondamentale, toujours dans la rubrique « Mais qu'est-ce que ça veut dire savoir ?», c'est cette sous-question « Qu'est-ce que ça veut dire énoncer ?» Et nous savons juste, pour nous repérer, nous savons juste que l'énoncé, encore une fois, ça n'est ni mot, ni phrase, ni proposition. Bon, alors, où est-ce que nous en étions? C'est là que j'éprouvais la dernière fois le besoin de commencer par un détour, me disant, mais peut-être que l'autre aspect, l'autre moitié de la question, à savoir la question de la visibilité, pourrait nous donner des lueurs sur la question principale de l'énoncé. Et la dernière fois, on en était à peu près à ceci. Je disais, vous voyez... Au point nous en sommes, hein, quant à cette histoire de l'énoncé. La méthode de Foucault consiste à dire, quand vous posez un problème, quel qu'il soit, donnez-vous un corpus. Vous partez d'un corpus. Un corpus bien déterminé d'après le problème que vous vous posez, d'après la recherche que vous faites. Comprenez, à ce niveau, il ne se donne pas l'énoncé, ce serait très fâcheux. Il y aurait cercle vicieux. Faut pas. Il ne se donne pas d'énoncé. C'est un corpus de mots, de phrases et de propositions. Simplement, ce ne sont plus simplement des mots, des phrases et des propositions, puisque c'est des mots, des phrases et des propositions, saisi en tant qu'il forme un corpus. C'est donc déjà un premier pas dans sa méthode. D'où la question sous-jacente, on avait vu la dernière fois, mais comment on constitue le corpus? Comment on constitue le corpus? Essayez de voir que déjà, cette question est très compliquée, car si je dois commencer à constituer un corpus pour arriver à comprendre ce que c'est qu'un savoir, il faut que les moyens que j'emploie pour constituer le corpus ne présupposent rien d'un savoir. Sinon, ça irait mal à mettre en place. Mon problème, en effet, depuis le début, c'est qu'est-ce que le savoir ? Et je dis, par exemple, savoir, c'est énoncé. Bon, comment trouver des énoncés ? Je pars d'un corpus de mots de fin de proposition. Là-dessus, objection. Comment tu constitues le corpus ? Si pour constituer le corpus, je fais appel à quoi que ce soit qui présuppose un savoir, ça ne va pas. Si bien que, dans les premiers livres de Foucault, vous ne trouverez pas les règles d'après lesquelles il constitue ses corpus. Vous ne le trouverez pas. Bien plus, il ira jusqu'à dire « moi je fais que des fictions ». Mes corpus, c'est des fictions. Ce qui revient à dire que je suis une espèce de romancier. Alors, il n'a pas tort. En même temps, on sait bien que c'est pas vrai. Et que dès ses premiers livres, il avait déjà une idée qu'il ne développera que plus tard. Mais qu'est-ce que c'est ? Si alors je me donne les livres suivants, la réponse est là. Et pour nous, est satisfaisante, au moins provisoirement. Quitte à ce que plus tard, cette année, on l'étudie directement. Mais si je me réfère déjà à cette réponse, c'est quels vont être les critères de constitution du corpus ? Une fois dit que ces critères ne doivent pas être empruntés à un savoir, ils seront empruntés à quoi ? Ils seront empruntés au pouvoir. Ils seront empruntés au pouvoir. C'est-à-dire, un problème étant donné, je constitue le corpus correspondant dans la mesure où je détermine les foyers de pouvoir mis en jeu par le problème. D'où l'idée de Foucault, qu'il a dès le début, mais qui n'expliquera que plus tard, à savoir, le pouvoir est strictement immanent au savoir. Ça donne quoi concrètement ? On l'a vu. Il veut constituer, par exemple, un corpus de sexualité. C'est-à-dire un corpus des mots, phrases et propositions de sexualité à une époque considérée. Comment constituer le corpus ? Sa réponse est très simple. Déterminons les foyers de pouvoir mis en jeu par la sexualité à tel moment. Par exemple, au 19e siècle. Les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir. Les foyers de pouvoir et de résistance mis en jeu par la sexualité à tel moment, c'est quoi ? Au 19e siècle. Eh bien, il nous dira, le pouvoir ecclésiastique, non pas en général, mais particulièrement dans la confession, le pouvoir de l'école, pas en général, mais particulièrement dans le règlement d'internat. Le pouvoir juridique, au niveau de l'expertise, pas en général, mais dans l'expertise psychiatrique des perversions, etc. Je peux en tout cas assigner un nombre fini de foyers de pouvoir autour desquels, autour de chacun de ces foyers, se forment des cercles de mots, de phrases, de propositions. Je constitue ainsi un corpus. Bien. Mais vous voyez que ça ouvre pour nous, alors qu'on a à peine entamé la question « qu'est-ce que savoir ?», Ça ouvre pour nous des questions futures. Qui est quoi? Qui sont quoi? Bon. Je peux déjà les marquer, puis les abandonner tout de suite, parce que... il faudrait que j'ai déjà fini avec qu'est-ce que le savoir pour passer à ces questions. C'est qu'est-ce que c'est que ces centres de pouvoir? Et surtout, pourquoi est-ce que Foucault brise avec la phénoménologie? Dès le début. En nous disant tout le temps, il n'y a pas d'expérience sauvage. Il n'y a pas d'expérience libre. C'est que l'expérience, elle est comme toujours conditionnée et quadrillée par des rapports de pouvoir. Et finalement, l'expérience sauvage, ce serait l'expérience que nous avons des centres de pouvoir quand ils nous interpellent. C'est-à-dire le contraire d'une expérience sauvage, ou d'une expérience libre. Et aussi d'où le doute de Foucault, la mélancolie de Foucault, lorsqu'il dit, eh bien oui, on me dira, il adorait se faire à lui-même des objections, il vaut toujours mieux se faire à soi-même des objections, parce que celle des autres, c'est... Alors il disait, mais on me dira, c'est-à-dire je m'objecte, hein. Je m'objecte, mais ça va pas ton truc. Tu franchis pas la ligne, dit-il. Tu franchis pas la ligne. Tu restes toujours du côté du pouvoir. Pourtant Dieu qui ne restait pas du côté du pouvoir. Mais est-ce que dans sa pensée, il ne reste pas du côté du pouvoir? Au sens où les rapports de pouvoir, les foyers de pouvoir, sont là pour déterminer les corpus. C'est dans un texte très beau, emprunté là toujours à cet article, La vie des hommes infâmes, dont je vous parlais un peu la dernière fois. Il dit, on me dira, vous voilà bien, avec toujours la même incapacité à franchir la ligne, à passer de l'autre côté, à écouter et à faire entendre le langage qui vient d'ailleurs ou d'en bas. Vous faites toujours le même choix du côté du pouvoir de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait dire. Et je crois qu'une des raisons du long silence de Foucault, il y a de multiples raisons, entre la volonté de savoir et l'usage des plaisirs, mais une des raisons au moins, c'est ce problème qui devenait de plus en plus urgent pour lui, à savoir comment passer de l'autre côté, comment franchir la ligne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore au-delà des lignes de pouvoir et comment y arriver? Mais pour le moment, on verra comment ce problème est posé et résolu parfois. Mais pour le moment, nous pouvons être pleinement contents de cette première réponse. On ne pose pas encore la question du pouvoir, puisqu'on en est en plein dans la question du savoir. Et on dit juste, ah ben oui, d'accord. Son corpus de mots, de phrases, de propositions, effectivement, il tient bien les conditions de son pari. Il peut le former sans rien préjuger de ce qui est en question, à savoir, qu'est-ce que le savoir? Puisqu'il forme le corpus des mots, phrases et propositions, en fonction des foyers de pouvoir et résistance mis en jeu, concerné par le problème correspondant. Vous posez un problème, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour la sexualité au XIXe siècle? Vous formez votre corpus. Sans cercle vicieux, dans la mesure où vous vous demandez quels sont les mots, les phrases et les propositions qui tournent autour des foyers de pouvoir concernant la sexualité. Ou concernant la sexualité. C'est clair, ça. Bon. C'est très important pour l'avenir, pour nous, puisque ça marque déjà un certain rapport, une certaine présupposition du pouvoir par le savoir. Alors, une fois que vous avez votre corpus, qu'est-ce que vous faites? Qui est très divers. Mais vous voyez qu'il tient son unité de ceci, c'est le corpus de sexualité. Qu'est-ce qui se passe? de ce corpus, vous induisez moi. On l'a vu les dernières fois, quelque chose qu'on peut appeler de nom divers. Un ilia. Le ilia du langage. Ou bien, je reviens au même, un on parle. Ou bien, je reviens au même, un être langage. Un être du langage. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une généralité vide. On parle. Un être langage. Il y a du langage. En quoi c'est lié au corpus? Comment est-ce qu'on le conclut du corpus? Pas compliqué, vous vous rappelez, ça, c'est nos résultats de la dernière, des fois dernières. Il ne s'agit pas d'un universel. C'est que l'être-langage, le « on parle », est inséparable de tel ou tel mode historique qu'il prend par rapport à telle ou telle formation. Il est inséparable de sa modalité historique. En d'autres termes, c'est ce « on parle », il y a du langage, cet être-langage, c'est une manière dont le langage se rassemble sur telle ou telle formation. Et en effet, alors sur telle ou telle formation, c'est-à-dire la manière dont le langage se rassemble, est-ce que je peux dire au XIXe siècle? Oui, à la limite, je peux dire le langage se rassemble d'une certaine façon au XIXe siècle. Mais c'est une très grande, c'est un grand rassemblement. Très grand rassemblement, l'être-langage du 19e siècle, ou le « on parle au 19e siècle ». C'est vraiment un rassemblement très vaste. Comprenez qu'en fait, il y a un rassemblement du langage pour chaque corpus. Chaque corpus opère un certain rassemblement de tout le langage. Et en effet, le corpus de sexualité opère un certain rassemblement de tout le langage autour de la sexualité. Si bien que chaque corpus opère un rassemblement, et chaque corpus renvoie à un être langage, à un il y a du langage. Simplement, je peux parler d'un « il y a du langage propre à toute une formation historique » dans la mesure où la formation historique se définira par l'ensemble des corpus, par l'ensemble de ces corpus. Alors là, il y aura un grand rassemblement du langage qui correspondra au langage de l'époque ou de la formation. Bien. Ça va toujours vous m'interrompre, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas passer. Il faut que ça... Tout ça. Alors, bien. Je dirais... Les énoncés. Voilà. Ils sont comme au croisement. C'est cette ligne en pointillés. Ils sont comme au croisement du corpus de mots, phrases et propositions et du rassemblement langage sur le corpus. Ou bien dans Raymond Roussel, dans le livre sur Raymond Roussel, Foucault nous dira « Pour trouver les énoncés, il faut fendre ou ouvrir. Il faut fendre, ouvrir les mots, les phrases et les propositions. » Or, qu'est-ce qui ouvre les mots, les phrases et les propositions? C'est le « il y a du langage ». C'est le « il y a du langage », le rassemblement du langage sur le corpus, qui force le corpus à s'ouvrir et à lâcher les énoncés que sinon il tiendrait enfermés. Bon, mais tout ça, c'est des métaphores. Hein. Fendre, ouvrir. Alors, bien, j'en suis à ma ligne en pointillé. Voilà, je tiens bien le schéma pour l'énoncé. Mais il faut que je remplisse l'entre-deux. Entre le rassemblement du langage et le corpus sur lequel il se rassemble, c'est là que surgit l'énoncé. Ça ne nous dit pas ce qu'est un énoncé. Mais ça nous forcera à le dire. Voilà. Repos, j'ai besoin d'un détour.